Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, en compagnie de Yann Kerjoin à la technique. Je reçois aujourd'hui Manuela Parra, poète et présidente de l'association Voix de l'Extrême. Elle est accompagnée d'Elisabeth Vitielli qui nous offre une lecture de poèmes en espagnol. Manuela Parra organise les quatrièmes rencontres franco-espagnoles qui ont lieu à Montpellier et sont dédiées au souvenir, à la sauvegarde de la mémoire autour de la retirade et de l'exil. Cela se passe du 28 novembre au 2 décembre. Nous allons aller à la découverte du programme, explorer le programme en sa compagnie. Le premier rendez-vous a lieu le 28 novembre et c'est une journée qui débute à 9h30 en partenariat avec le lycée Jules Guesde. Dans cette journée sera abordé l'art dans les camps. Elle sera suivie du vernissage d'une exposition et de l'inauguration des rencontres qui aura lieu ce soir là à 18h. Manuela, qu'avez-vous envie de nous dire autour de ce premier rendez-vous du 28 novembre ?
Eh bien d'abord, bonjour. Merci Marie-Agnès de nous recevoir pour cette quatrième édition des rencontres franco-espagnoles, toujours dans le même esprit, hein, qui veut placer la culture au cœur de l'engagement et de la résistance. Et c'est pour ça que ces quatrièmes rencontres s'appellent Culture, Engagement et Résistance, avec beaucoup de partenariats, notamment la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, avec le conseil régional, avec le conseil départemental de l'Hérault et la fondation Machado. Et d'autres partenaires, bien entendu, le lycée Jules Guesde. Et puis, ce premier jour-là montre bien l'image de l'engouement des partenaires autour de cette manifestation quand on va parler de l'art dans les camps. Alors, pourquoi l'art dans les camps ? Parce que l'exil, la guerre d'Espagne, l'exil et la condition des internés espagnols dans les camps en France a été largement décrite, peinte, même à l'intérieur des camps. Et souvent, ce patrimoine artistique, hein, puisqu'on parle d'art, a été tué, négligé, passé sous le silence. Donc, raconter cette histoire, qui est finalement mon histoire, hein, en tant que fille de l'exil, j'ai toujours choisi de le faire à partir de ce patrimoine qui était longtemps ignoré ou étouffé. Et c'est ce que l'on va présenter aux lycéens le premier jour dans l'art dans les camps. Alors c'est le 28 novembre et c'est une journée qui est consacrée et réservée essentiellement aux lycées, aux lycéens. Donc de Nîmes, de Montpellier. Déjà, je sais que l'amphithéâtre fait 200 places et que déjà l'amphithéâtre est comble. Hier, j'étais avec les professeurs Pierre Berland du lycée Jules Guesde et Isabelle Simon du lycée Albert Camus de Nîmes, qui font partie des classes qui animent les classes de Bachibac. Voilà. Et donc, si vous voulez, toute la journée, nous allons aborder cette thématique-là. Aussi avec la Fondation Machado qui va venir nous parler de l'engagement de Machado par rapport à la République. Machado qui est enterré d'ailleurs à Couloure en France, le grand poète. Et l'après-midi, nous aurons Aurel qui participe fortement, et je l'en remercie profondément et sincèrement, participe à nos rencontres, nous a offert une affiche magnifique. Et donc, il viendra présenter le film Joseph. Joseph, qui est un film qui relate la vie de Bartoli. Bartoli qui nous a livré un patrimoine de dessin des conditions des internés dans les camps. Patrimoine qui n'est pas, qui est bien sûr pas le seul. Hein. On a Manolo Valiente. Qui lui a écrit dès qu'il est arrivé en France. C'est un sculpteur sur bois, un Andalou, qui était engagé dans la guerre d'Espagne. Et dès qu'il est arrivé en France, a commencé à écrire de la poésie et à graver en ramassant des morceaux de bois sur la plage quand il était interné à Barcarès et à Argelès-sur-Mer. Et il a fait des gravures magnifiques dont les reproductions qui sont contenues dans son ouvrage qui s'appelle Arena y Viento seront exposées au lycée Jules Guesde. C'est à ce moment-là, au moment du vernissage de son exposition, qu'on va pouvoir présenter aussi son œuvre poétique. Alors, Arena y Viento, ce sont 15 gravures qu'il a sélectionnées. Ce sont 15 poèmes qu'il a sélectionnés parmi toute sa production artistique. Et c'est un recueil, Arena y Viento, Sable et Vent, qui nous raconte la douleur de ce qu'ont vécu les républicains espagnols internés dans les camps. Et en fait, elle se déroulera le soir à 18h dans la salle d'exposition du lycée Jules Guesde. Voilà. Donc, pour nous, c'est important, cette ouverture dans le lycée Jules Guesde. Ce n'est pas neutre, parce qu'on veut aussi témoigner pour nous l'importance que l'on apporte à la transmission mémorielle, mais aussi dans ces périodes un peu troublées, l'importance de réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République et à la laïcité. Voilà. C'est pour ça que ça nous a apparu important de faire cette ouverture dans les lieux qui incarnent le plus la connaissance. Et pour ça, j'ai envie de vous lire un petit extrait de Garcia Lorca, quand il a ouvert l'inauguration de la bibliothèque de Fuente Vaquero, son allocution, puisque Fuente Vaquero, c'était son village. La devise de la République doit être la culture. La culture, parce que ce n'est qu'à travers elle que peuvent se résoudre les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui le peuple, plein de foi mais privé de lumière. N'oubliez pas que l'origine de tout est lumière. Voilà. Donc, si vous voulez, pour nous, c'était important d'être dans les lieux de la lumière et de le réaffirmer par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Et je vais peut-être proposer à Elisabeth de nous lire en espagnol un poème écrit par Manolo Valiente quand il était derrière les barbelés ou dans les hôpitaux à son arrivée en France en 1939.
Merci Marie-Agnès, merci Manuela de me donner l'opportunité de prêter ma voix à cette belle poésie. Je vais vous lire « Que soy, qui suis-je ». Yo soy bandido de nubes y robo los horizontes que guardo en la caja negra de las penas de mis noches. Si los guardias lo supieran y vinieran con sus bronces, despertarían los niños que en los pechos se corrompen. Yo soy bandido de nubes y robo los horizontes para hacer muecas de fuego y dolores de altavoces. Pues tengo en el cuerpo campos que llevan el negro coche vestido de alambre verde y enorme pasaporte, podrido de espera loca y muerto de arena y cobre. Si yo no fuera bandido de nubes y de horizontes, en un rincón de madera hubiera perdido el nombre, aguardando y aguardando el día que tú conoces, mientras el campo del gallo me hubiera roto la noche. Pero como soy bandido de nubes y de horizontes, me paso el tiempo robando los tesoros de la noche.
Très belle lecture, Elisabeth.
Merci.
Merci, Elisabeth. J'en ai des frissons.
Voilà, donc pour ce 28 novembre, je suis très heureuse de pouvoir faire découvrir Manolo Valiente qui est enterré à Banyuls, qui n'est jamais retourné en Espagne, qui a été un homme singulier et c'est un vrai bonheur. Sa famille sera certainement là au vernissage.
Peut-être un petit extrait en français, un paragraphe
du même texte.
Oui, pour que nos auditeurs puissent découvrir cette belle poésie.
Si je n'étais pas un voleur de nuages et d'horizons, au fond d'une encoignure de planches, j'aurais perdu jusqu'à mon nom, attendant et attendant le jour que toi, tu connais. tandis que le chant du coq m'aurait déchiré la nuit. Mais comme je suis un voleur de nuages et d'horizons, je passe mon temps à piller la vitrine de la nuit.
Merci beaucoup. Le mercredi 29 novembre, le rendez-vous aura lieu au Gazette Café à 18h. Le thème abordé sera « Les écrivains engagés pendant la guerre d'Espagne de 1936 à 1939 ».
Alors, je suis très contente que Pierre Berlin, professeur d'histoire avec qui nous travaillons depuis plusieurs années au lycée Jules Gued, ait accepté de lancer la première journée sur la littérature et l'engagement, donc à la Gazette Café à 18h le mercredi 29 novembre, où il va intervenir sur les valeurs qui ont porté ces hommes, ces écrivains, ces poètes, pour défendre une république à un moment où l'État français prenait la non-intervention. Malraux, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est engagé fortement, et puis il va nous parler certainement des Mingouais, etc. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ça ouvre un grand cycle autour de sa conférence qui sera poursuivie le jeudi 30 novembre, puisque c'est le même bloc, autour d'Albert Camus. On connaît bien l'engagement de Camus envers les Espagnols. Effectivement, sa mère était d'origine espagnole et il a pris part très tôt aux affaires de l'Espagne, si bien que quand il a publié État de siège, ça fait en sorte qu'ensuite il ait été interdit en Espagne. Donc c'est vrai que c'est aussi important dans des périodes que nous vivons où parfois on a une perte de sens, une perte des valeurs, qu'on sache dire oui, qu'on sache dire non, comme disait Camus, et qu'on ne banalise pas les choses sur un même plan, c'est-à-dire ce qui est pour nous les effets ou le fascisme par rapport à ce qui est la défense de valeurs, de fraternité, de solidarité et de laïcité aussi. Voilà.
Et Pierre Berland dit que il explique, certains écrivains se sont rendus en Espagne combattre les armes à la main, comme André Malraux, tel que vous le disiez, Simone Veil ou George Orwell.
Voilà, donc c'est ce qu'on va aborder avec Pierre, avec qui nous travaillons maintenant, ça fait la quatrième année, puisque ce sont la quatrième édition des rencontres franco-espagnoles. Et maintenant, on a beaucoup de projets.
Il faut avoir des projets, c'est très important. Et nous allons écouter Paco Ibáñez qui chante un poème de Lorca. Thank you. Nous continuons à déployer le programme de ces quatrièmes rencontres franco-espagnoles, sauvegarde de la mémoire et la culture au cœur de l'engagement et de la résistance. Jeudi 30, Manuela Parra, vous qui êtes présidente de l'association, vous nous parlez de cette rencontre qui aura lieu salle Pétrarque à 18h et dont le titre est « L'engagement d'Albert Camus envers l'Espagne et les républicains espagnols ».
Tout d'abord, cette soirée Albert Camus est aussi à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance. Et on a souhaité effectivement, avec Monsieur Almarcha, conseiller départemental, qui va être présent et animer avec nous cette soirée, on a souhaité recevoir des personnes confirmées qui font partie de la société camusienne et qui vont nous parler de l'Espagne, sa littérature et Camus comme passeur de 36 à 59. Donc il s'agit de Guy Basset, qui présenteront donc l'engagement de Camus envers l'Espagne dès 35 en Algérie, à travers son œuvre littéraire et théâtrale, au travers aussi de son travail éditorial, de ses traductions, ainsi que le Camus politique engagée des républicains espagnols en exil. On se rappellera de tous les articles qu'il a pu écrire dans Combat. On se rappellera aussi de son allocution quand il a reçu le prix Nobel et qu'il a fait une intervention aussi en parlant de l'exil et des républicains espagnols, de son intervention aussi autour de l'ONU où il refusait éventuellement que Franco puisse être reconnu. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est un homme qui était engagé et qui a toute sa vie porté plume pour défendre nos pères et nos grands-pères qui ont subi une maltraitance, hein, alors qu'ils défendaient une république instituée par les urnes. Voilà. Donc c'est Monsieur Guy Basset, hein, qui est docteur de l'université Paris Sorbonne Nouvelle et qui est membre de la société camusienne, qui va nous parler de Camus et de l'œuvre de Camus, avec et puis François Bogliolo, qui est professeur de l'université, dont d'ailleurs le père était en classe avec Camus à Alger. Donc il y aura des lectures par des comédiens et pour illustrer un certain propos, notamment sur la peste, mais la peste, le monologue dans le cadre de l'œuvre « État de siège ». Il y aura peut-être aussi des extraits sur la révolte des Asturies, une des premières pièces de Camus qui a été éditée à Alger par Edmond Charlot. Et effectivement, nous avons souhaité parler d'Edmond Charlot, ami et premier éditeur de Camus, mais aussi parce que aussi Edmond Charlot a fini sa vie à Pézenas, et qu'il a essayé de monter une librairie, une maison d'édition, et que Jean-Charles Domès, qui est éditeur des éditions Domès et qui a une librairie à Pézenas, a très très bien connu Edmond Charlot. Il y aura la compagne de Edmond Charlot qui vont nous apporter aussi un témoignage de la relation, surtout entre Edmond Charlot et Camus. Il y a des petites histoires assez cocasses autour notamment de l'édition de La Révolte des Asturies, qui est un projet collectif qu'ils ont monté à Alger. Mais je ne veux pas déflorer les sujets, parce que sinon les auditeurs ne viendront pas. Et ce serait quand même dommage. Voilà. Donc, moi, je suis ravie. Enfin, l'année dernière, nous avons fait un hommage à Maria Cazares. Et cette année, on a eu envie de mettre à l'honneur Albert Camus, parce que c'est un homme qui reste extrêmement contemporain par rapport à ses écrits et qui mérite d'être relayé, reconnu, connu, plein feu sur Albert Camus et ses idées.
Et il y aura deux maisons d'édition donc qui présenteront les ouvrages autour de l'œuvre d'Albert Camus, les éditions Domas et les éditions du Chèvrefeuille étoilé.
Voilà.
Bon, c'est un très beau programme. Alors, vendredi 1er décembre, ce sera une soirée, toujours à 18h, mais qui va se dérouler dans l'auditorium du musée Fabre en partenariat avec SOS Méditerranée. Une soirée consacrée à cinéma et poésie, l'engagement contemporain en Espagne, Manuela.
Oui, parce que selon la pratique de notre association Voix de l'extrême poésie et culture, ses fondements sont en Espagne, puisque c'est quand même un mouvement culturel engagé qui a été impulsé par Antonio Orihuela et qui est en quelque sorte le parrain de notre association. Et le souci, ça a été, en discutant avec lui, aussi d'apporter un regard sur comment les artistes engagés donnent à voir leur engagement en Espagne. Et au travers de l'œuvre d'Isaia Grignolo, qui est un artiste visuel, un cinéaste, l'idée c'était bon, de montrer ce que les Espagnols proposent, mais aussi ce qu'ils proposent et qui nous intéresse tous autour de la Méditerranée par rapport à la question de l'exil, des camps et de tout ce qui se passe de manière contemporaine. Donc on avait déjà commencé à traiter le problème, la question avec SOS Méditerranée, puisque c'est notre partenaire privilégié avec qui que nous soutenons à notre niveau avec les moyens que nous avons et parce que c'est quand même des actes humanistes et humains fondamentaux que de sauver des gens qui sont en détresse, voilà. Et donc nous avions commencé à travailler avec eux notamment sur ce qui s'était passé en Calabre et autour de la lettre ouverte de Mimmo Lucana il y a en mars dernier. Et donc là, nous avons ressollicité Clara Hart qui nous avait fait la lecture de la lettre et elle a accepté de venir présenter cette lettre-là et aussi elle a accepté de nous soutenir toute la soirée et cette soirée avec la projection du film de Isaia Grignolo, la lecture et aussi la présentation de l'action des SOS Méditerranée est vraiment dédiée à apporter une nouvelle fois un soutien fondamental à SOS Méditerranée sur des problématiques qui sont communes entre la France et l'Espagne. Voilà.
Et ce film, donc, c'est Auschwitz on the Beach.
Voilà. En présence, donc, de l'artiste visuel, qui, pour la petite histoire, et la grande histoire pour lui, expose. Hein, c'est un artiste qui expose au musée de la Reina Sofia et qui a bien voulu venir, et qui a bien voulu venir chaleureusement. Hein, voilà, donc ça, il faut quand même aussi le souligner. Il y a beaucoup d'énergie chaleureuse et non intéressée financièrement. Oui. Hein, c'est ce que je veux souligner parce que le budget
beaucoup
de l'association...
Générosité, oui.
Voilà, beaucoup de générosité, je cherchais le mot.
Alors, samedi 2, donc ce sera la journée de clôture, mais il se passe déjà beaucoup de choses ce samedi 2 décembre. Mmh. La journée débute à 14h30, de nouveau dans l'auditorium du musée Fabre. Et là, Pablo Picasso sera à l'honneur pour cette journée de clôture. Manuela,
alors, c'est un vrai bonheur pour moi que ce samedi 2 à 14h30. Parce que là, il y a vraiment un condensé de valeurs, de solidarité, d'amitié, toute cet après-midi-là. Alors pourquoi ? Parce que on va pas parler que de Picasso le peintre, parce que bon, il y a beaucoup de spécialistes, de gens qui en parlent, et c'est pas notre propos en tant qu'association et en tant que projet. Engagement, culture et résistance. Notre propos, c'est surtout de montrer comment Eugenio Arias, dont j'ai eu la chance d'avoir des échos par des amis républicains espagnols très engagés qui ont été en prison à Burgos et qui l'ont rencontré parce qu'ils ont fait de la collecte avec Arias pour envoyer des fonds pour soutenir les prisonniers républicains espagnols enfermés dans les prisons d'Espagne. Donc, Arias, c'était le coiffeur de Picasso. Arias, républicain espagnol en exil,
qui s'est battu durant la guerre d'Espagne et qui était un homme extrêmement cultivé parce que bon, c'était, même s'il était fils de coiffeur dans un village à Buitrago del Lozoya, le projet de la Deuxième République espagnole, c'était la culture et l'éducation au cœur de la République, hein, comme l'a dit tout à l'heure et que je vous ai lu tout à l'heure à propos de Glorca. Et donc, Arias a été l'ami intime, et jusqu'à la fin, c'était la période de Valoris, puisqu'ils habitaient Valoris, était l'ami intime de Picasso, de Jacqueline. Et donc, mon ami Manuel Madrona mangeait souvent avec Arias et Picasso. Et donc Picasso offre, puisque Arias était coiffeur, offrait souvent des objets de coiffure qu'il personnalisait à Arias, à Eugenio Arias. Et quand Picasso est décédé, Arias était à la tête d'œuvres magnifiques. Et donc, au lieu de les vendre à des collectionneurs qui l'ont contacté, Arias a décidé d'en faire don à son village pour ouvrir un musée. Parce qu'en fait, Arias, il a dit des phrases simples et magnifiques, il n'y a pas de richesse si elles ne sont pas partagées. Et donc, dans ce petit village de 1000 habitants, dans la montagne, au-dessus de Madrid, il y a le musée Picasso, qui est sous la mairie, avec des œuvres superbes, et Arias souhaitait que l'entrée soit gratuite. Et l'entrée est gratuite. Voilà. C'est donc, c'est une histoire magnifique, oui. Parce que il a fait don d'une œuvre considérable.
Oui, 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 c'est un patrimoine phénoménal.
Il aurait pu s'enrichir.
Il aurait pu le garder pour lui, effectivement.
Voilà. Et donc, je trouve que ça témoigne d'une valeur extraordinaire.
Oui, voilà. Une grande générosité, de nouveau.
Ensuite, nous aurons Vicente Pradal, qui est un homme aussi extraordinaire, dont le grand-père était l'instituteur de Garcia Lorca, qui a eu l'idée magnifique de traduire la locution de Federico Garcia Lorca à la population de Fuente Vaquero. Vicente Pradal, qui est un chanteur de flamenco, qui est un homme très connu dans le milieu des républicains espagnols. Son père était aussi installé à Toulouse. Et Vicente, qui est né à Toulouse, est une figure emblématique des républicains espagnols en exil, des enfants de l'exil. Voilà. Et donc, il va venir nous faire cette lecture qu'il a traduite et qu'il a fait publier aux éditions des Sables. Voilà. Donc, et nous clôturerons en poésie. Nous clôturerons la rencontre cette année grâce à la venue d'Antonio Riuela, qui nous soutient chaque année. Et j'avais envie cette année qu'on lui consacre un temps, parce qu'il prend du temps pour nous, mais on le fait lire toujours un petit peu, aparté, etc. Et là, c'était bien aussi de le remercier et qu'il nous fasse partager son travail poétique engagé. Voilà.
Il y aura des traductions
voilà,
également de son œuvre.
Tout ça se passe au musée Fabre.
Voilà. Et là, c'est à 17h, la clôture en poésie.
Donc, 14h30, Picasso sous le regard de Eugenio Arias. 16h, lecture de la locution de Federico Garcia Lorca par Vicente Pradal. Et clôture par Antonio Riuela. Voilà. Et je crois savoir que Monsieur le maire sera là à l'ouverture de ce samedi.
Oui, et je crois...
C'est animé... par Agnès Robin,
voilà.
Qui nous fait la gentillesse de venir nous soutenir. Agnès Robin, qui est maire adjointe déléguée à la culture et qui sera avec nous toute l'après-midi.
Et qui est régulièrement là pour
nous soutenir. Régulièrement.
Voilà. Donc, si vous pouvez nous rappeler les dates, Manuela, pour que nos auditeurs...
Alors, du 28 novembre au 2 décembre. 28 novembre au 2 décembre, donc on peut se retrouver le mercredi 29 novembre à 18h à la Gazette Café. Le 30 novembre à 18h à la salle Pétrarque. Et le vendredi 1er décembre, 18h, au musée Fabre, auditorium Alfieri, ainsi que le samedi 2 décembre à 14h30 au musée Fabre. Toutes les entrées sont gratuites.
Et merci Manuela de nous avoir partagé ce programme et donné envie également d'aller découvrir culture et engagement et résistance à Montpellier. Thank you.
pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
A très bientôt, chers auditeurs, autour de la poésie et des poètes avec Jardin d'Isis, et aussi pendant les manifestations de la, des quatrièmes rencontres franco-espagnoles à Montpellier. À très bientôt.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.